RFI.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Le goût du monde, Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue dans l'ambiance des rues de Château-Rouge à Paris avec la chef Anto Cocagne, que vous connaissez très bien sur RFI, Anto Cocagne. C'était un jour de juin, Château-Rouge, donc incontournable, le plus grand marché à ciel ouvert d'Europe, et bien sûr, il est africain.
Alors ici, on est à Château-Rouge, on va dire le quartier africain. Et c'est vrai que la première fois que je suis venue à Château-Rouge, il y a 10 ans, je me suis demandé si on était encore à Paris, parce que je retrouvais les mêmes codes qu'il y avait quand on va dans un marché africain, que ce soit à Libreville, au Gabon. Vraiment les mêmes codes, la façon de vendre, de présenter le produit, de racoler les clients qui viennent acheter, tout ça. Enfin, vraiment, quand on veut cuisiner vraiment un plat africain, c'est l'endroit où il faut être, parce qu'il y a tout.
Et des bons produits.
En termes d'épices, oui, des produits frais, viande, poisson, et il y a tout ce qu'il faut.
Nous étions près de la rue du Poulet, si vous connaissez. Ce marché qui fait dire en retour quand même que Paris est le 55e pays d'Afrique. Hein, on est d'accord. On y cuisine des gombos, on y cuisine des sakasaka, on achète de l'odika pour cuisiner. Les mamas cuisinent bien sûr, mais bien sûr au-delà des mamas, aujourd'hui il y a les chefs masculins, féminins dans les restaurants. L'Afrique, les Afriques, on en parlera, mitonnent depuis des décennies dans l'ombre et voici maintenant qu'elles intriguent, elles séduisent. On les courtise enfin, il serait temps, la cuisine de l'Afrique en France n'a pas attendu elle pour s'écrire encore. Nouvelle, inspirante, les yeux regardent, la bouche goûte. Et je vous assure, une fois goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Parmi ceux qui la mettent en lumière depuis bien longtemps déjà, qui savent que ces cuisines sont précieuses, variées, riches, patrimoniales et vivantes, il y a nous, on peut le dire quand même. Et vous, vous qui nous écoutez, celles et ceux assis aussi aujourd'hui autour de notre table, notamment Vérane Frediani. Bonjour Vérane.
Bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires, autrice. Après Marseille, Cuisine le Monde, chef au féminin, Elle cuisine. Voici aux éditions de La Martinière, L'Afrique cuisine en France. Un livre enquête passionnant, c'est simple, on l'adore, on ne le quitte plus. Des histoires, des parcours, des recettes, des rencontres, un voyage plein d'infos, bref, que du bonheur. Mais avant, vous demandez de nous raconter ce livre et ce qui vous a incité à l'écrire. Eh bien, saluons donc Jules Niang. Bonjour Jules.
Bonjour.
Et merci d'être venu de Lyon, rien que pour cette émission, nous voir. Vous êtes le chef du Petit Ogre. Vous nous expliquerez pourquoi vous l'avez appelé le Petit Ogre, ce restaurant?
Ouais.
Parce que vous êtes gourmand?
Oui, en fait, c'était un hommage à mon neveu qui adorait manger et on l'appelait le Petit Ogre.
D'accord.
Yannick, je salue au passage.
D'accord. Donc, on est à côté des Halles, Paul Bocuse, je crois, et de la Part-Dieu, non?
On n'est pas loin de la Part-Dieu, à 5 minutes à pied.
D'accord.
De la Part-Dieu.
D'accord. Merci et d'être venu. Donc,
c'est un plaisir.
À cette table, c'est trop bien. Et Ornella Anani.
Bonjour.
Bonjour Ornella.
Bonjour.
Qui n'habite pas si loin d'ici et qui est la seule femme, je crois, à avoir créé une entreprise de Wagashi, qui crée et qui fabrique donc en France, à côté de Paris, ce fromage Peul du Bénin, histoire de vos racines.
Exactement, j'avais à cœur de transmettre ce savoir-faire béninois, ce patrimoine béninois. Et donc c'est dans ce souci-là que je me suis lancée dans cette aventure, il y a bientôt 3 ans.
3 ans.
Oui.
Femme d'entreprise.
Oui.
Et Wagashi maker.
Exactement, fromagère.
Fromagère, oui. Fromagère, tout à fait. L'Afrique cuisine en France. Vérane Frediani, comment est née cette idée? Comment est né ce projet de livre?
C'est parti du livre précédent, en fait, Marseille cuisine le monde. En ayant finalement parlé de Marseille et de sa diversité par la cuisine, j'avais envie de continuer à parler de la richesse aussi qu'il y a en France, culturelle, par la cuisine. Et je me suis finalement imaginé un Tour de France un peu différent, où pendant 2 ans, j'allais aller à la rencontre de chefs qui créent, pour moi, une nouvelle cuisine, en fait, hybride, et qui mélange des cultures culinaires et des grammaires culinaires différentes pour nous proposer quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, ça voulait dire aller aussi voir des chefs qui cuisinent des recettes traditionnelles africaines, mais ma première idée était quand même de faire le tour de France de ces chefs qui, aujourd'hui, osent remettre à plat les traditions, qu'elles soient africaines ou européennes. domaine et créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est toujours une façon de parler de la société aussi, bien entendu.
Bien sûr, c'est une nouvelle langue complètement qui se crée, parce qu'on a aussi des profils totalement différents, qu'on soit africain, afro-descendant, enfin, toute cette marmite-là, elle est extrêmement riche et c'est cette écriture-là qui s'invente.
De toute façon, la gastronomie française ronronne quand même depuis quelques décennies et puis on a toujours eu besoin d'influences extérieures sur...
Elle est faite de ces influences,
elle est faite d'ingrédients qui sont venus d'ailleurs, de techniques qui sont venues d'ailleurs, d'idées qui sont venues d'ailleurs et heureusement qu'aujourd'hui, on a tous ces chefs qui ont choisi de créer en France.
Qui ont eu le courage de créer en France parce qu'il faut pouvoir aussi aller au-delà des a priori. Parce que autant aux États-Unis, on a l'impression que cette cuisine a pu se réinventer, se créer aux États-Unis. Dans un pays anglophone.
Même en Angleterre, d'ailleurs.
En Angleterre.
Mais je pense que c'est lié à un poids de la tradition en France qui est énorme, notamment en cuisine. Je veux dire, on a du mal à effacer tout ce qui a été fait avant et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui peut être considéré comme de la haute gastronomie. Donc, dans des pays où il y a peut-être moins de tradition culinaire, on va dire, gastronomique, On a forcément plus de liberté.
À Lyon, quand on est dans une ville patrimoine, comment est-ce qu'on crée sa cuisine africaine? Comment est-ce qu'on dit, regardez, je vais vous présenter une cuisine, mais avec ses accents et ses saveurs, et comme vous êtes curieux, parce que vous devez l'être, en fait, pour accéder.
Oui, mais en fait, Lyon, c'était compliqué au départ. C'est la capitale française de la gastronomie, avec beaucoup de références, avec beaucoup de... Il a fallu ramer au départ, essuyer les plâtres, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir... un chef africain qui tient un restaurant, qui tient la route, qui n'est pas un boui-boui. Je parle de ça, c'était il y a 10 ans en arrière. Donc c'était très compliqué au départ. Mais l'avantage à Lyon, c'est que les Lyonnais sont très curieux. Malgré les institutions, malgré le poids des institutions, la population elle-même, elle est ultra curieuse. Elle pousse quand même les portes. Mmh. Et à nous de transformer l'essai. Moi, dans l'idée que j'avais, c'était pas de faire... je ne reproduis pas les plats africains, je vais pas faire du mafé. C'est pas mon style. Je vais pas faire du tchéboudienne, c'est pas mon style. L'idée, c'est de travailler en partant des produits. Mais dans mon idée, c'est de dire, on va connecter, je vais prendre des produits de saison qui sont de la région, mais je vais les connecter avec autre chose, montrer qu'on peut, à travers les produits, donner une nouvelle dimension, avoir une nouvelle perspective. Mmh. Et c'est ça l'écriture que je fais. Là où c'est intéressant, c'est qu'on arrive à savoir qu'on peut aimer le baobab. Et que ça marche bien avec le bœuf qu'on a l'habitude de manger, qu'on peut aimer le mil, ça marche bien avec le poisson qu'on a l'habitude de manger. Et ça fait cette espèce de mariage, cet aller-retour entre l'Afrique et la France, et qui fait qu'on a beaucoup de choses à découvrir, on a beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que la cuisine française s'est beaucoup enrichie de la cuisine asiatique. Et maintenant, je pense qu'on a un peu épuisé le sujet, quoi. Il faut passer à autre chose. Et l'Afrique, je pense qu'il y a un potentiel qui est juste... immense.
Énorme.
Ouais. On a cette carte à jouer. Moi, je suis heureux d'être à cette époque de l'histoire où on est en train d'écrire cette page. Le livre de Véran en témoigne parce qu'il y a énormément de talents, il y a énormément de choses qui se font et qui se font dans l'ombre. Et ça demande qu'à être vu, au final.
C'est intéressant ce que vous dites. Je suis heureux d'arriver à cette époque de l'histoire. Parce que c'est vrai, quand je disais en introduction que ça fait longtemps qu'on parle de ces cuisines, mais qu'elles ont du mal à sortir. Quand on va au rayon des librairies, il y a toujours à l'Afrique du Nord. On a toutes les cuisines déclinées. Et dès qu'on est en subsaharienne, il n'y a pas. On a Alexandre Bellaola qui a mis en avant Christian Abégan, Rougidia. Des personnalités qui ont essayé justement de mettre en valeur cette cuisine, qui l'ont fait, tout ce travail-là. Et là, qu'est-ce qui a fait que ça a changé?
Mais en fait, je pense que la force du mouvement d'aujourd'hui, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se regroupe et on commence à parler tous d'une même voix, la dynamique est un peu différente.
Oui, très différente. Moi, j'ai assisté au début, quand j'ai démarré à Lyon, j'étais tout seul. Et maintenant, on doit être une dizaine de chefs à pousser. J'ai assisté aux rencontres des cuisines africaines il y a 2 ans, pareil.
C'est ça.
Il y a une vraie dynamique qui se met en place. Et surtout, la jeune génération, c'est une génération aussi qui est consciente qu'elle a quelque chose à dire et qu'elle a quelque chose à apporter à la gastronomie française et mondiale. On a vraiment quelque chose à apporter. C'est pas, on ne fait pas juste que cuisiner. Ça veut dire, prenez ça parce que c'est des réponses souvent à pas mal de questionnements et auxquels on est confronté en France. C'est quand on dit, par exemple, qu'on parle de la sobriété alimentaire, on parle de l'écologie, on parle... Bon, maman cuisinait déjà comme ça.
Et du gluten, par exemple.
Ouais, ouais. Tous ouais. ces produits-là, on a déjà les réponses. Mmh. Je racontais Laurent Petit a eu sa troisième étoile, l'explication de Michelin, c'était de dire qu'il avait réussi à changer la donne parce qu'il mettait les poissons et les viandes comme accompagnement, comme condiment.
Comme condiment.
C'est ce que ma mère fait depuis des années, depuis 40 ans. Donc.
Mais on le dit, l'Afrique est avant-gardiste. Et on le réalise aujourd'hui. Il y a eu besoin de cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération aussi qui a grandi en France, qui s'est imprimée, qui assume sa double culture et qui la met en avant.
Je crois qu'aussi la double culture aujourd'hui devient la norme en fait. On se rend compte que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est fait comme ça. Et ça amène une telle richesse en fait d'avoir les pieds dans plusieurs cultures et de pouvoir proposer quelque chose dans l'assiette qui soit très personnel. C'est fabuleux.
Le goût du monde sur RFI.
D'ailleurs, il y a une odeur de wagashi dans le studio. Alors, le wagashi, parlez-nous de ce fromage, Ornella.
Alors, le wagashi, c'est un fromage peul.
J'ai dit qu'on le sent parce qu'on l'a fait chauffer un petit peu.
On l'a fait chauffer, j'en ai ramené un peu pour faire goûter. Et c'est un fromage très respecté au Bénin et très apprécié. Et donc, moi, j'avais pour ambition de faire connaître ce fromage-là au-delà des sphères béninoises et ouest-africaines parce qu'il n'est pas consommé qu'au Bénin, au Togo aussi, au Ghana.
Au Ghana.
Et donc, je voulais le faire mieux connaître au monde. En Afrique, on fait aussi des fromages.
Ouais.
Il n'y a pas que la France qui,
c'est ça,
qui,
c'est culotté.
Qui fait des fromages.
C'est
oui.
culotté. C'est oui. osé, comme Paris encore, de dire, allez hop, je lance un wagashi au pays
oui.
des fromages.
Oui, ce pari-là, je l'ai pris parce que quand je suis arrivée il y a 10 ans en France, très tôt, j'ai eu ce manque-là du fromage parce que j'en raffole et j'en voulais. Mais je n'arrivais pas à en trouver. Ouais. Et à chaque fois, je devais négocier avec un oncle, une tante, une cousine qui arrive, quelques kilos pour qu'on m'en ramène. Et généralement, il n'est pas frais. Et donc, il y a 4-5 ans, je me suis demandé, mais j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Et je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je vais me lancer? Qu'est-ce qui peut bien faire la différence? Et c'était un peu une évidence. Mon mari m'a dit, mais tu as ce savoir-faire-là, tu le fais. Comme toi, je suis sûre qu'il y a plein de Béninois, plein de Togolais, plein de Ghanéens en France, à Londres, aux États-Unis, en Asie, qui en recherchent mais qui ont du mal à en trouver. Pourquoi pas tenter cette
Lance-toi.
Aventure-là? Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes entrée dans le studio, on a parlé wagashi, et évidemment, avec Jules, nous nous sommes dit, ah tiens, wagashi, et Jules a apporté
des condiments.
Oui. Ce wagashi, qu'est-ce que ça vous inspire, Jules?
C'est hyper intéressant parce que c'est... On sent le fromage, mais c'est assez léger. On dirait qu'il est soufflé.
Oui.
Ça marcherait bien avec les condiments que je fais. En fait, quand on mange en Afrique, un repas, c'est encore un moment de partage. Un partage qui est physique. On mange pas l'un à côté de l'autre. On mange vraiment dans le même plat. Et dans ce même plat, on met le dénominateur commun. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément le piment à l'intérieur. Il n'y a pas forcément l'acidité. Il n'y a pas forcément pas mal de choses. Donc, on met le dénominateur commun au centre. Et après, autour, il y a plein de condiments qu'on choisit après.
Comment vous êtes rencontrés tous les deux,
Jules et Véran? En fait, j'ai débarqué dans le restaurant Le Petit Ogre. Un jour, je passais par là avec mon mari. On avait toutes nos affaires de tournage. On était en train de filmer, je crois, en Bourgogne. Et puis, on est passé par là. On s'est arrêté, on a déjeuné. Et puis, ce qui était fabuleux, c'est qu'en fin de repas, Jules avait du temps. Du coup, on s'est assis, on a discuté. Et Jules, du coup, m'a demandé, franchement, les questions de base. Pourquoi veux-tu faire ce livre et qu'est-ce que tu veux dire et qui il y aura dedans? Et bon, alors, c'est vrai que ça m'a permis d'expliquer un peu ce que j'avais en tête, de le confronter à un chef. De clarifier un peu tout ça et de voir si je me trompais ou si il y avait effectivement matière à faire un livre intéressant pour tout le monde, en fait. Aussi bien pour des personnes qui connaissent l'Afrique que pour celles qui ne connaissent pas le continent.
Clairement.
Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, et moi c'est la chose qui m'a beaucoup marqué quand on s'est rencontrés la première fois, c'est qu'elle met toujours... On sent qu'elle a envie de mettre l'humain au centre de son histoire. Les gens, ils racontent leur histoire, ils racontent leur vécu. C'est ça qui était intéressant pour moi de savoir déjà que la personne qui en parle, elle a envie de mettre de la lumière. Ça ne sert à rien de faire des livres de recettes, je pense. C'est des histoires aussi qui sont portées par des femmes et des hommes et qui ont décidé de s'implanter en France, de travailler en France et avec toute la difficulté que cela comporte. Et d'arriver aussi à raconter leur histoire. Parce qu'en fait, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais quand on demande à un cuisinier de cuisiner, qu'il soit breton ou alsacien ou ivoirien, il raconte toujours une histoire qui est personnelle. La personne raconte toujours sa propre histoire. Mmh. Maintenant, ces histoires-là, quand on est en France et qu'on a grandi ici et qu'on a fait une grande école de cuisine, c'est facile de la mettre en lumière. Parce qu'on a l'habitude de te raccrocher à quelqu'un, de dire, OK, il est sortant de l'école Bocuse, ou il est formé chez Fréchon, ou il est formé chez Ducasse.
On a le même vocabulaire.
Voilà. Mmh. On a le même vocabulaire, on a le même langage, on a le même... C'est plus compliqué quand on n'a pas suivi ce processus-là et qu'on n'est pas d'origine française. Mmh. Et c'est ça qu'elle met en lumière.
L'idée, c'était que ce soit inspirant pour beaucoup de jeunes qui veulent effectivement mettre leur vécu dans leur créativité.
Et se dire que c'est possible. De Sangoy Blues, titre de l'album Héritage dans la playlist de RFI choisie et mitonnée aux petits oignons par toute l'équipe. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez RFI. C'est le goût du monde, le goût de la cuisine de l'Afrique en France, cette nouvelle cuisine enthousiasmante, jubilatoire, nouvelle qui s'écrit et dont témoigne Véran Frediani dans son livre Enquête, l'Afrique cuisine en France. À table avec nous, Jules Niang du Petit Ogre à Lyon et Ornella Anani, une des rares, la seule même, je crois, productrice du fromage Wagashi, mon fromage Peul du Bénin, ici en France. Alors, une question que je me suis posée, moi, quand j'ai lu votre livre, et que vous posez dans l'introduction, Véran Frediani. Il y a un moment, on se pose la question de, bah, moi, je suis blanche, sans racines africaines. Mm-hmm. Qu'est-ce qui me donne le droit d'écrire pour les autres?
Oui, bien sûr, je me suis posé la question dès le départ. Le droit, je me le suis finalement donné parce que je suis documentariste, que je fais des documentaires et quand on est derrière la caméra, en général, on va vers un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et qu'on a envie de connaître. Et moi, je suis d'une nature très curieuse, j'avais envie d'apprendre. Et je me sentais un peu idiote à rester comme ça sur mon peu de connaissances, finalement. Et quand on m'a proposé de faire une sorte de suite à Marseille Cuisine le Monde, je me suis demandé ce sur quoi j'avais envie de me poser pendant 2 ans. Et finalement, je l'explique dans l'introduction, en discutant avec Anto Cocagne, avec Jules, je me suis rendu compte en fait que c'était notre responsabilité à tous d'aller les uns vers les autres, de mettre en lumière la créativité de chacun, d'où qu'elle vienne, et notamment d'Afrique. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité à nous tous qui sommes là en France, de parler de ce qu'on a autour de nous. et de nous poser les questions, d'aller à la rencontre de ces chefs, de leur demander finalement quel est leur vécu, quels sont leurs ressentis. Sinon, on reste sur des a priori et une ignorance folle. Donc, au contraire, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà, je crois que c'est comme ça que finalement je me suis donné la légitimité dont j'avais besoin.
C'est une façon d'aller vers l'autre aussi. Quand
c'est une façon,
sa culture,
oui, de créer de nouveaux ponts, et on en a tellement besoin. En fait, on peut vivre sur l'histoire, le passé, et le ressasser. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'oublier, mais à un moment donné, nous, notre génération, qu'est-ce qu'on est en train de créer, en fait? Quel pont, quelle histoire on est en train d'écrire? C'est notre responsabilité, encore une fois, à tous. Et je veux pouvoir dire à mes enfants et à mes petits-enfants ce que moi j'ai fait pour que les relations entre l'Afrique et la France soient nouvelles, différentes, enthousiasmantes, et que tout le monde, en fait, en soit fier.
Ouais, et que ce message, cette cuisine africaine qu'on goûte en France, qu'elle puisse se refléter à l'étranger. Qu'à l'étranger, on se dit, ah tiens.
Exactement, que la France puisse en être fière. Et effectivement, quand on invite des chefs à l'étranger pour représenter la gastronomie française, qu'on puisse enfin la représenter comme elle l'est. C'est-à-dire diverses, variées, pleines d'idées, bouillonnantes, avec des influences étrangères, et qu'on arrête d'avoir cette brochette de mâles blancs hétéro, en fait, qui limite voyage avec leur toque dans l'avion. Ça va pas, en fait. Et là, je pense beaucoup à Lyon, dans ce cas-là. Il faut changer l'image de la cuisine française. On est en train de le faire, et Guillaume Gomez est en train de le faire, bien entendu. Mais on est tous en train d'avoir la possibilité de le faire. On a les clés dans nos mains, donc agissons.
Ouais. Alors, je m'amuse parce qu'Ornella est venue avec un beau chapeau, magnifique chapeau, qui m'a rappelé un autre chapeau, celui de The Woman King, Georgiana View. Est-ce que c'est aussi par Georgiana View que cette histoire a commencé? Alors, Georgiana View, on rappelle, une étoile à Nîmes, pour le restaurant
s'appelle Rouge,
marseillaise d'origine, d'où la gastronomie. Peut-être que la capitale de la gastronomie africaine en France, c'est peut-être Marseille.
Bien sûr, c'est Marseille, bien voilà. Entendu, Clémence.
Est-ce que ce message-là de Georgiana, qu'elle porte...
Oui, avant d'écrire ce... De toute façon, Georgiana a fait partie de tous mes livres. C'est assez fou.
Et Anto.
Voilà, la chef Anto aussi, pas mal. C'est vrai. Et parce que j'ai beaucoup travaillé sur les femmes chefs. Et oui, en ayant discuté de tout cela avec Georgiana et avec la chef Anto, bien entendu, je savais qu'il y avait beaucoup à dire sur leur parcours, leurs envies, leur créativité, leurs doutes aussi. J'ai beaucoup interviewé Georgiana aussi pour des documentaires, pour le Michelin, pour... Et du coup, je me suis rendu compte à quel point... La question du positionnement est compliquée. Je pense que beaucoup d'entre vous, enfin, je parle à Jules et Ornella, ont envie aussi d'entreprendre en Afrique. Et donc, il y a vraiment l'envie de faire ce pont, ce lien, se créer ce lien par la cuisine, de remettre à plat les cuisines traditionnelles du pays dont on vient, et de remettre aussi les choses à plat en France.
Mais ça a été une étoile. Comme Maurice Sacco a été une étoile. Ça a été les premières figures étoilées de chefs noirs sur la scène internationale. Ça a été un déclic. J'aime beaucoup, dans le livre que j'ai lu, donc j'ai lu votre portrait, Jules, votre approche des cuisines africaines, qui ne sont pas les cuisines, justement de ce socle qui va se retrouver dans la cuisine, dans les manières de cuisiner, avec des cuisines de l'Ouest, des cuisines de l'Est, des façons de se retrouver dans ces savoir-faire-là. Parce que ça, après, c'est ces ponts-là aussi qui se recréent.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est éminemment politique. Là où elle est légitime, c'est qu'il faut avoir la solidité pour pouvoir le porter, ce sujet. Et pouvoir aussi poser les mots justes. En France, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde, comme elle le dit. L'approche que j'ai de la cuisine africaine, c'est de dire en France, je prends juste Lyon, on a 4000 chefs. Et on en forme chaque année des centaines à Lyon. Je ne parle pas de Paris, je ne parle pas de Marseille, je ne parle pas des autres villes françaises. Donc tu prends toute l'Afrique, on n'en a pas... une bonne centaine qui sont formés, qui tiennent des restaurants, qui peuvent prétendre à rivaliser avec les chefs français comme nous qui vivons ici sommes capables de le faire. Donc si on veut parler de la gastronomie africaine et la donner une dimension internationale, il faut qu'on arrive non seulement à se côtoyer, à se connaître, à savoir ce que chacun fait, mais aussi à parler le même langage, à porter le même sujet, et surtout à repousser les limites ensemble. Ça ne peut pas chacun d'entre nous s'isoler dans son petit coin et vouloir bidouiller en étant trois Pékins sur le continent. Je pense que ça ne peut pas le faire. Donc on ferait mieux, en fait, je pense que là, c'est pas en scindant en disant « oui, moi je suis Ivoirien ». Ok, de toute façon, que tu sois Ivoirien, Mauritanien, Sénégalais ou Béninois, tu cuisinera toujours une cuisine qui est unique, qui est à toi, qui est ton langage à toi. Mais qu'est-ce qui nous lie? D'avoir une approche qui est basée sur la logique de qu'est-ce qui nous lie au lieu d'avoir une approche de qu'est-ce qui nous différencie. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quand on mange un plat, on se dit ce plat-là, il est africain. Et ça, c'est un vrai questionnement qu'il faut avoir. C'est un vrai travail de fond qu'il faut avoir sur ce sujet-là. Et on ne peut pas juste l'excuser. Ce n'est pas possible pour moi.
C'est une interrogation fondamentale.
Ouais. Ouais.
Mais que vous vous posez, que vous exprimez à voix haute, et de plus en plus fort, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression.
Non, mais il y a plus de monde, en fait. Il y a plus de monde sur le sujet. Il y a plus de travail aussi qui se fait. Il y a une jeune génération qui est montante. Il y a Kine à Marseille.
On n'a pas parlé de Hugues, maintenant, à Marseille.
Dans votre livre aussi, on découvre qu'il y a une nouvelle façon aussi de faire. Alors, on peut faire une cantine à midi. Ben, ça, c'est pour Hugues Benta. On a la cantine à midi, le restaurant gastronomique le soir, c'est Kine. Aussi, il y a une découverte à Strasbourg de Gilles.
Ah, le Jabiru Café.
Jabiru Café qui revisite chaque mois un nouveau continent. Mais il part en voyage, en recherche. Mais en recherche, réellement, pour découvrir justement ce qui... lit ces différentes cuisines, c'est fantastique. Ouais. C'est juste tellement enthousiasmant.
C'est ça.
Ouais. Oui, mais
oui, et puis ça permet aussi d'aplatir un peu la hiérarchie des gastronomies dans le monde, parce qu'on a l'impression aussi qu'on ne peut pas donner un certain prix à une cuisine qui serait afropéenne. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que si, en fait. Dans des restaurants qui veulent faire de la haute gastronomie, on peut avoir un plat avec certains ingrédients africains ou certaines techniques de cuisson africaines. Et on met des étoiles Michelin ou on met un prix qui n'est pas effectivement le prix habituel d'un restaurant, on va dire, très africain. Et ça, nous, en fait, en France, on a un vrai souci là-dessus et on l'a imposé au monde entier, cette hiérarchie. C'est-à-dire que n'importe qui sur la planète a bien conscience qu'un menu français ou franco-français, on va devoir le payer plus cher qu'un menu thaïlandais, qu'un menu... Et ça, bon, c'est malheureux, mais heureusement qu'aujourd'hui, on est en train de le remettre
de
à plat. Et voilà. Donc les étoiles servent à ça aussi, en fait. Il y a un deuxième sujet, c'est la place des femmes dans la cuisine professionnelle. Heureusement qu'on a Georgiana View ou la chef Anto. Mais parce qu'en Afrique comme en Europe, les plats traditionnels ont été inventés et créés par des femmes. Mais aujourd'hui, heureusement qu'on a aussi des femmes chefs professionnelles. Donc on s'entraide, en fait, les uns les autres, là, sur tous ces sujets.
Oui, sur le sujet des femmes chefs, moi, j'ai été agréablement surpris quand tu voyages dans les écoles de cuisine en Afrique, c'est majoritairement des femmes.
Ça, oui, ça veut dire qu'elles vont en faire leur métier.
Ouais. Ouais.
Et que ça ne va plus être quelque chose de donné qu'on fait gratuitement à la maison. Mais on a familial. Et en plus, les femmes se forment souvent en famille. Mais il y a des choses qu'à l'école, on apprend aussi qui sont différentes et qui sont dans les techniques. Et les femmes en ont besoin aussi. Mais bon, en France, jusque dans les années 80, les écoles de cuisine étaient interdites aux femmes.
Je reviens au Wagashi, juste parce que dans le livre de Ferran, vous dites... Un de mes objectifs, c'est qu'il se retrouve, mon wagashi, au Bon Marché à Paris, qui est quand même, contrairement à son nom, et le rendez-vous luxe et chic de la capitale.
Oui.
Ça vous ferait quoi?
Ça me ferait me sentir fière d'avoir pu placer ce produit-là, d'avoir pu le faire sortir de la sphère béninoise. En fait, l'objectif, c'est de rendre ce produit luxueux. Il l'est déjà, mais il n'est pas connu comme il devrait. Et donc, c'est un peu mon rêve, en fait, de réussir à faire ça. Et c'est ce que je souhaiterais.
Mais c'est la sacralisation.
Oui.
Hein?
Oui. Je vise ce positionnement-là.
C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et ben voilà.
Non, mais il faut vraiment... les grandes tables à Marseille organisent des rencontres, en fait, des cuisines africaines. Mais je pense qu'il est grand temps d'inviter à ces rencontres des chefs qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, qui pensent tout savoir de la cuisine, qui sont très étoilés, très reconnus, et qui, là, aujourd'hui, devraient se rendre compte de leur ignorance. Je milite fortement pour que les chefs se bougent un peu, à goûter les cuisines qui sont dans les restaurants aujourd'hui en France, chez le Petit Ogre ou autre, pour là aussi créer quelque chose avec ses ingrédients et leur grammaire culinaire. Ça peut être intéressant aussi.
Mais
faire des connexions nouvelles. Voilà, on a besoin de tout le monde, en fait. Ouais. Qu'ils aillent goûter les cuisines qui se font aujourd'hui. Mais en plus, ce serait bien qu'à un moment donné, on ait l'honnêteté de dire que cette ignorance ne peut pas durer.
Merci beaucoup, Vérane, Jules, Ornella. Alors, l'Afrique cuisine en France, 60 recettes, 20 portraits de chefs aux éditions de La Martinière. Une pépite, un livre passionnant que je vous conseille évidemment à garder toujours près de soi. Jules, c'est Le Petit Ogre, 15 rue de la Bannière, dans le 3e à Lyon. Ornella, Mon Fromage, Peul du Bénin. Merci de nous partager aussi vos adresses, vous qui nous écoutez d'épicerie ou bien de restaurant, que l'on puisse les partager à notre tour. Merci à vous de votre fidélité. Merci à Guillaume Munier qui a réalisé et mis en onde cette émission. On vous souhaite une très